Vous écoutez Delirium environnemental, le magazine d'information en environnement, mais comme on le disait en début d'émission, Delirium, c'est également un site internet que vous retrouvez au www.radiodelirium.net. On continue la revue de presse, c'est un petit lent, juste pour vérifier comme ça. Ce qu'on vient d'entendre, si vous l'avez entendu, c'était Vulgaire Machin. Le titre, c'était Dieu se pique. J'imagine, parce qu'il y a tellement de problèmes dans le monde, pauvre monsieur, tu veux passer à travers. À moins qu'il se pique à l'insuline, qui sait. Je m'excuse. C'est vrai, je m'excuse. Blasphème, je m'excuse. Merci, Nicolas, de me remettre dans le droit chemin. Toujours. D'ailleurs, tu nous parles tout de suite d'une grande découverte exceptionnelle qui va probablement révolutionner le domaine de l'énergie. Les États-Unis ont eu une belle idée.
Oh, c'est une découverte d'États-Unis. Oh.
Découverte d'États-Unis. On entendait l'ironie dans ma voix.
On se paye un bloc États-Unis, là, juste pour se faire plaisir. C'est tout le temps le fun de regarder les chires états-uniennes. Et puis celle-là, ça n'est une majeure. Oui, énergie alternative, effectivement, ça ne veut pas dire que alternatif implique intéressant point de vue environnemental. Je vais vous parler des hydrates de méthane. Hydrates de méthane, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça.
Je pense qu'il y en a dans ma crème de jour.
C'est faux!
Et voilà. Alors, lisez tous vos ingrédients de crème de jour. Si vous avez des hydrates de méthane, envoyez ça aux States. Ils vont faire l'énergie avec. Parce que c'est la nouvelle manne aux États-Unis. On a découvert que, apparemment, dans les sous-sols marins et les pergélisols un peu partout sur la planète, c'est-à-dire les sols qui sont gelés en permanence, il y aurait des quantités impressionnantes de ces hydrates de méthane qui sont, en fait, du méthane qui, sous pression, a cristallisé pour former une certaine neige. De la neige qui contient une quantité impressionnante de carbone. Ce carbone pouvant être utilisé pour la combustion et donc pour fournir de l'énergie. De la même sorte que le pétrole ou le gaz naturel le fait en ce moment, eh bien, ces hydrates de carbone qui sont contenus dans les fonds marins représentent en ce moment l'équivalent énergétique de tout ce qui nous reste de pétrole, de gaz naturel, de charbon, de mazout combinés ensemble.
Comment ils peuvent savoir ça?
Ah, écoutez, c'est des scientifiques, là, ils savent de quoi ils parlent. Mais tout ça pour dire que c'est une très grosse nouvelle parce que, et là, on rentre dans l'événementiel. Les États-Unis ont décidé d'aller faire leur premier forage pour les hydrates de méthane cette semaine. En fait, il y a un vaisseau qui s'appelle Uncle John, hein, incroyable, qui s'en va dans le fond du golfe du Mexique pour faire le premier forage exploratoire pour voir si c'est possible d'exploiter ces hydrates de méthane.
Mais là, ça risque pas de faire des gros pets de méthane.
Et voilà, gros pets de méthane, puisque c'est des grosses poches qui sont toutes mélangées dans les fonds marins, dans les pergélisols. Dans les pergélisols, c'est pas une espèce de comme une nappe de pétrole toute uniforme. Faut savoir que ces hydrates de méthane là sont déjà connus par l'industrie pétrolière depuis longtemps parce que ils considèrent en ce moment que c'est un déchet parce que ils viennent, je dirais, empêtrer les systèmes d'exploitation traditionnels d'énergie. Et puis ils se débarrassent constamment de ces hydrates de méthane là. Par contre, une fois qu'on oriente notre exploitation pour l'hydrate de méthane comme tel, ça apparemment peut devenir intéressant pour un environnement énergétique. Là, justement, le problème, c'est que, écoutez, on négocie avec du méthane. Vous savez que le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, 21 fois plus puissant que le CO2. Ce gaz à effet de serre, une fois libéré dans l'atmosphère, va évidemment modifier le climat. Ce que les environnementalistes décrivent en ce moment, des pressions qui sont faites sur cette nouvelle source d'énergie, c'est de dire, écoutez, si on s'en va forer dans les fonds marins ou dans les pergélisols pour sortir ces hydrates de méthane-là, évidemment, il va y avoir des fuite. Évidemment, il va y avoir libération massive de ce méthane et on va accélérer le phénomène de changement climatique. En ce moment, les États-Unis veulent être, évidemment, les pionniers. Ils veulent avoir la première conquête des hydrates de méthane et ils investissent à coups de millions et de milliards de dollars là-dedans. La preuve est ce premier forage qu'ils feront cette semaine dans le golfe du Mexique. Autres pays intéressés, le Japon, l'Inde et la Corée. Et qui d'autre? Nul autre que M. Martin et le Canada. En fait, c'était M. Chrétien puisque c'était en 2003. On a déjà fait des tests dans les territoires du Nord-Ouest, dans les pergélisols, pour aller exploiter ces hydrates de carbone-là, ces hydrates de méthane, pardon.
C'est pas comme du gaz naturel. Ça serait pas
dans
vraiment la catégorie gaz naturel.
C'est de la neige. C'est vraiment de la neige. Et puis, cette neige-là est exploitable et exploitée déjà, mais extrêmement problématique. À savoir, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est toutes les décisions qui vont se prendre dans les prochaines années. puisqu'évidemment, les États-Unis veulent se libérer de leur dépendance au pétrole provenant de, du Moyen-Orient. Mais point de vue environnemental, ce serait, de mon avis, extrêmement catastrophique.
Mais de toute façon, même si on est capable d'aller chercher ces hydrates de méthane-là sans créer de fuite, il reste que son utilisation, si on est capable d'avoir un char qui roule à la coke de méthane ou la poudre de méthane, eh bien, il va produire des CO2, du gaz à effet de serre quand même.
Ils vont produire des gaz à effet de serre. En fait, c'est du CO2. Le, la résultante de la combustion du méthane est du CO2. Par contre, le méthane brûle mieux que le pétrole, par exemple. Donc, il va émettre moins de CO2 par unité d'énergie que le pétrole. Mais tout ça pour dire qu'on s'en fout, parce que ça va complètement à l'encontre des efforts pour Kyoto, ça va complètement à l'encontre des efforts planétaires pour réduire nos effets sur le climat.
Rapidement, on peut peut-être terminer sur une bonne nouvelle, parce que malgré que les États-Unis au grand complet, parfois, ont des idées un peu stupides, comme celle d'aller chercher le méthane dans les sols, par contre, il y a aussi certains États qui se démarquent en mettant de l'avant des idées pour verdir leur éventail énergétique.
Exactement. On appelle ça le portfolio standard d'énergie renouvelable. C'est un nouveau programme qui a été lancé aux États-Unis. Et puis, ce programme-là, qui est instigé par les États et non pas par l'administration Bush, eh bien, c'est un portfolio qui force les distributeurs d'énergie à avoir un certain pourcentage qui provient d'énergie renouvelable. Donc, je m'explique. On force, par exemple, l'État de la Californie à avoir 20%, ça c'est le vrai chiffre, 20% des distributeurs californiens d'énergie doivent distribuer l'énergie qui provient de sources renouvelables, exemple le solaire, l'éolien, la géothermie. Ce que ça implique en ce moment, on estime environ 53 milliards de dollars états-uniens les prochains investissements d'ici 15 ans concernant seulement ce portfolio-là. Donc, évidemment, c'est extrêmement intéressant puisque c'est des nouvelles argents,
argent neuf,
qui vont être investis. Et puis là, bon, il y a une course qui se fait dans les États, la Californie, New York, Illinois et la Pennsylvanie, qui seraient les principaux États intéressés. En tout, on parle d'environ 52 000 mégawatts de puissance qui vont être développés d'ici 2020, juste à cause de ce programme-là. Donc, 53 milliards, je le répète, c'est des excellentes nouvelles.
Mais bonne nouvelle, heureusement, parce qu'autrement, hein, ce serait déprimant.
Ben.
De retour à Delirium environnemental, toujours dans la partie revue de presse, revue de l'actualité. Une tendance lourde, j'aurais envie de dire, assez étrange. Nous, humains de la planète Terre, quand nous avons des problèmes, parfois la solution qu'on prend, c'est de construire un mur autour. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire à Montréal. Nicolas Milot.
Mais oui, le dossier du Technoparc, c'est peut-être un dossier qu'on n'a pas vraiment exploité au cours de l'émission. C'est un problème qui dure depuis très longtemps, les débuts des années 90. On se remet dans le contexte. Au début des années 90, on commence à voir apparaître des fuites d'hydrocarbures et de BPC qui s'écoulent d'un milieu très observé à Montréal, celui du terrain du Technoparc, mais très peu connu.
Technoparc, tu parles de l'est de Montréal, la section industrielle?
Eh bien, pas du tout. Le territoire du Technoparc, c'est le territoire qui est comme inclus à l'intérieur de l'autoroute Bonaventure qui longe le fleuve entre le pont Victoria et le pont Champlain.
Donc, c'est au sud
de l'île de Montréal. C'est un terrain qui autrefois a appartenu à des sociétés fédérales, notamment Via Rail, la Société des ponts fédéraux, le CN, le Canadien national, et qui ont, dans le fond, entreposé là des hydrocarbures, des BPC, et ces hydrocarbures et BPC-là se sont mis à fuir. On sait entre autres que Daniel Green, un militant environnemental très présent sur la scène montréalaise, se bat depuis des années contre ce phénomène-là. Dans le fond, un autre des nombreux sites gouvernementaux fédéraux qui sont contaminés, mais qui ne sont pas décontaminés, qu'on laisse faire. Et bien, ça fait des années que la ville de Montréal a dépensé environ 3 millions en solutions temporaires pour éviter de contaminer trop intensément le fleuve Saint-Laurent à cause de ces émissions-là. Parce que c'est de la marde qui coule de cette terre. C'est complètement dégueulasse. Vous pouvez avoir accès à cette terre-là, c'est pas trop compliqué. Vous avez juste à aller juste en dessous du pont Victoria, il y a des petits trucs qui se rendent jusque dans le coin. Vous allez sur le bord et sur le côté, vous allez voir présentement des espèces de boudins jaunes qui sont sur le bord du fleuve. Et à l'intérieur, donc entre la rive et ces boudins-là, eh bien, ça n'a absolument pas l'aspect, la consistance et la couleur de l'eau. C'est plein de reflets arc-en-ciel, plus ou moins goudronnés, ou... mais bref, qui sont extrêmement riches en BPC et en hydrocarbures.
Et vous aurez même la chance de voir une mouette à deux têtes sur ce beau petit
peut-être point. Même. Eh bien, la ville a lancé cette semaine un appel d'offres pour construire un mur en ciment bétonite, donc d'une hauteur de 7,5 mètres, d'une longueur de 160 mètres,
hey, ça,
pour y aller plus intensément dans la, disons, du calfeutrage de problèmes. On peut appeler ça comme ça. Mais la ville avoue déjà que ce projet, qui est évalué à 700 000 $, mais ce n'est qu'une solution temporaire encore, parce que, écoute, il n'y a rien comme de la décontamination complète qui devrait se faire. Le problème, c'est que Montréal, qui a déjà, comme je vous disais tout à l'heure, dépensé 3 millions dans ce cas-là, eh bien, veut pas payer ça tout seul. C'est pas elle qui a mis ça là. Donc, elle fait des solutions
plus ou moins.
C'est toute
la question. C'est ça, c'est toute la question de la responsabilité. Parce que la ville de Montréal, là, c'est nos argents à nous, ça, là, là, là.
Nos argents à nous, et c'est la responsabilité de qui? Donc, on se débat d'un côté ou l'autre pour aller refiler une partie de la facture, du moins, au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral renvoie la balle à la municipalité. Donc, il n'y a pas vraiment de solution définitive qui se prenne. Il n'y a que du calfeutrage de problème.
Bout de tuyau, puis là, le bout de tuyau, c'est un mur. C'est un vraiment n'importe quoi.
Un autre exemple de mur ou de pote de règlement de problème qui ne viennent pas présentement. Vous savez, il y a 2 ans, à l'île d'Orléans, à Québec, il y a eu un déversement d'un garage du coin. C'est 6 000 litres d'essence qui ont coulé dans la baie quand on rentre à l'île d'Orléans, donc à côté du pont. Il y a eu un déversement comme ça. Et là, c'est Ultramar et le garage en question qui se renvoie la balle, et donc on a décontaminé, mais pas au complet, et donc il y a encore, dans l'île d'Orléans, dans les petits marécages sur le bord de l'île, des quantités intéressantes de litres d'essence dans lesquels nos poissons, animaux, oiseaux, si vous êtes déjà baigné là, ben vous pataugez dans l'essence.
Bon, ben grosse nouvelle, et grosse nouvelle qui fait juste nous dire qu'on a vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Les mesures volontaires pour la décontamination, ça ne fonctionne pas, qu'on se le dise. Réglementons plus sérieusement et réincluons le mot toxique dans la loi, parce qu'autrement, on voit qu'il y en a qui vont se laver les mains, puis ça sera juste pas drôle.
Puis aussi, c'est la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces sols ou ces eaux contaminées-là? C'est tout le temps ça qu'on
La décontamination, c'est pas c'est, si simple.
Exactement. Je veux dire, après ça, on va envoyer ça dans des incinérateurs, ou est-ce qu'on va juste répartir ces contaminants-là dans l'environnement? C'est un gros problème.
On pourrait l'envoyer dans l'espace, peut-être.
Moi, je trouve que la question, on revient même à l'utilisation même de ces produits chimiques-là, les BPC. Je veux dire, on a interdit le commerce des BPC depuis les années 70, mais on est encore pris avec
poigné,
ça.
Ouais. Mm-hmm.
On est vraiment pogné avec. Donc, ça laisse, je veux dire, des grandes réflexions sur l'orientation de nos sociétés avec ces espèces de produits impossibles.
Ça nous amène à parler du sujet suivant, qui est l'énergie nucléaire. En 30 secondes, on a des gros problèmes avec ça. Quand on parle de déchets avec lesquels, après, on est coincé, là, on parle d'environ 25 000 ans. Les déchets radioactifs continuent d'être actifs pendant environ 25 000 ans. On dit un peu tout et n'importe quoi. Là, construire un mur autour des dépotoirs de déchets radioactifs, on sait que c'est pas suffisant. Donc, on parle de plein de sortes de solutions, entre autres d'aller enterrer ça dans le bouclier canadien ou ne sais-je que trop où.
Bien, en fait, c'est vraiment ça qui est en train de se passer comme débat en Angleterre. Vous savez que l'Angleterre est un grand utilisateur de l'énergie nucléaire, non seulement pour les centrales électriques, mais aussi c'est un détenteur de l'arme nucléaire, vous savez. Et puis, les déchets radioactifs britanniques commencent à prendre des proportions assez monumentales. Laissez-moi trouver mes chiffres. J'ai trop de nouvelles à vous dire. Il faut que j'y trouve.
Ben oui, surtout qu'il ne restait pas beaucoup de temps pour cette nouvelle nucléaire.
Ça pour dire que le gouvernement est en train... OK, j'ai les chiffres ici. 470 000 mètres cubes de déchets radioactifs en ce moment, en Angleterre seulement. Et on ne sait pas trop quoi faire avec. Et donc, les pressions populaires sont pour soit swinguer ça dans le fond des océans ou envoyer ça dans l'espace.
Ah!
Alors, évidemment...
méchante police d'assurance.
Elle
arrive une balloque, là.
Mets
ça dans le Challenger, là. Puis...
ils assurent même pas les OGM. Ils peuvent rien assurer de ces affaires-là. Ça dépasse l'entendement.
Je vais passer ma nouvelle quand même. Ça pour dire que le gouvernement, évidemment, balaie du revers de la main ces options-là pour dire, écoutez, on a 4 solutions. La première, on enterre ça très profondément, cloisonné dans le roc. Où est-ce qu'on va recouvrir ça et on touchera plus jamais? La deuxième solution étant, on envoie ça bien profond dans le sol, mais on a une porte de sortie. Si on veut aller les rechercher à un moment donné parce qu'on trouve une technologie de décontamination, on a la possibilité de recreuser puis les ressortir. La troisième, qui est, on enterre ça à faible profondeur, mais quand même cloisonné. Et la dernière, c'est on laisse ça en surface dans des espèces
containers
bien isolés avec un gros canon en U, là, puis s'assurer qu'il n'y a pas de terroriste qui va aller shooter un avion dessus, puis on y pense plus. Mais évidemment, la question de surface, c'est, Colin, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets-là? On est pognés!
Baisés, puis on n'a même pas de plaisir. Retour à Délirium environnemental. En fait, on va clore la revue de presse, revue d'actualité cette semaine. On a de l'air, je trouve qu'on fait vraiment preuve de décorum d'être capable d'arrêter de parler comme ça de la problématique des déchets nucléaires ou des autres problématiques desquelles on a parlé avant. On va quand même faire comme si rien n'était et continuer à respirer normalement parce qu'on n'a juste pas le choix. Et il y a des problèmes qui sont plus proches de nous. Est-ce que ça peut être plus proche que nous, mais de nous, je ne suis pas sûre, mais en tout cas. Fleuve Saint-Laurent, ça brasse dans le fleuve Saint-Laurent.
Ça brasse dans le fleuve Saint-Laurent, ça brasse au Bloc québécois aussi. Vous savez que le Bloc défend depuis quelques années, entre autres le dossier d'élargissement de la voie maritime de Saint-Laurent. On se manifeste ouvertement et massivement contre. Eh bien, le Bloc vise, dans les prochaines semaines, à faire une consultation élargie sur le fleuve, dans le fond, pour intégrer cette dimension-là à une éventuelle, peut-être rapprochée campagne électorale, qui sait, de jamais. Quatre axes de questionnement, donc un premier sur les questions environnementales qui vont toucher la qualité de l'eau, l'érosion des berges, la protection des habitats, donc de l'écosystème. Un deuxième sur comment on pourrait permettre à la population de se réapproprier son fleuve. On sait qu'un pourcentage qui frôle le 75% des berges du fleuve Saint-Laurent sont artificialisées ou de propriété privée. Donc, où est-ce qu'on veut aller? De toutes les berges du Saint-Laurent, c'est dégueulasse.
Regardez,
c'est pas compliqué, un contrat de... Dans le fond, c'est une propriété privée, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui possède un terrain sur le bord du fleuve est compté dans ce calcul-là.
Ah, okay, okay.
Un troisième groupe de députés va mener une consultation sur les possibilités de développement économique et on pense entre autres à utiliser l'aspect transport maritime pour relancer, redéfinir une politique de transport au Québec, viser l'intermodal, slacker un peu le char puis le camion. On a des super beaux exemples sur la Côte-Nord de bateaux qui font directement Sept-Îles et l'autoroute La 20 qui se range jusqu'à Rivière-du-Loup pour éviter aux camions de faire la 138, d'attendre la Tadoussac, de continuer à polluer là-là. Des super belles initiatives de ce côté-là. Et finalement, un quatrième groupe qui va se pencher sur les aspects internationaux. Vous savez que le fleuve Saint-Laurent, c'est le bout d'un grand système, celui des Grands Lacs, qu'on partage malheureusement avec des voisins du Sud qui sont souvent très, très à bord. Donc, un dossier assez important. Je suis très poli dans mes propos. Mais par exemple, un point que je trouve qui aurait été vraiment important sur lequel se pencher et qui enchaîne avec une nouvelle qui fait aussi l'actualité cette semaine, c'est la question de l'énergie. Le fleuve Saint-Laurent, quand on pense à énergie, mon Dieu, le lien, c'est quoi? Mais premièrement, il y a la production d'électricité à Beauharnois, qui est un cas particulier. Mais il y a surtout que c'est une voie d'entrée pour le gaz naturel et une voie qui est excessivement entrevue pour le futur. On pense à deux projets majeurs, celui de Rabaska à Lévis, donc qui est mis de l'avant par, excusez-moi, je vais en trouver, c'est voyons, Gaz Métropolitain, Enbridge et Gaz de France, et le projet de Gros-Cacouna qui, lui, regroupe TransCanada et Petro-Canada. Et donc, cette semaine, eh bien, on a des groupes qui se sont mobilisés du côté de Lévis pour contester le fait qu'un référendum municipal décide d'un enjeu aussi important que celui de l'avenir énergétique du Québec. Ce n'est pas uniquement aux gens de Lévis de décider si on doit faire rentrer du gaz naturel dans le Saint-Laurent. Et les gens du côté de Gros-Cacouna, eh bien, on pense au CRE, le Conseil régional d'environnement de la région du bas du fleuve, le regroupement national des CREU, Greenpeace, Québec vert Kyoto, l'UQCN, l'Union québécoise pour la conservation de la nature, qui eux se sont manifestés ouvertement à Kakuna, où est-ce qu'il n'y avait pas d'opposition au projet, ou pratiquement pas du côté de la population, et bien pour faire en sorte qu'Environnement Canada fasse une commission d'évaluation environnementale majeure sur la question des impacts environnementaux, sociaux, les enjeux de sécurité qu'implique l'ouverture d'un tel port méthanier, parce qu'on sait que c'est des quantités incroyables de gaz qui rentrent, et ce n'est pas uniquement pour le Québec, c'est pour l'Est de l'Ontario, c'est pour les United States des en-dessous. Donc, écoutez, c'est un problème qui est beaucoup plus grand que celui de juste faire un quai avec un tuyau qui se rend dessus dans une ville. C'est celui d'un avenir énergétique, celui de notre province. Donc, on demande de se pencher sur ces questions-là.
Et en plus, puisque tu mentionnes la question de l'avenir énergétique québécois, je pense que l'exemple de la coalition Québec vers Kyoto, qui a vu le jour avec l'exemple du Suroît, la centrale thermique du Suroît, est en train de provoquer un précédent, selon moi. Et cette coalition, Québec vers Kyoto, appelle un rassemblement ce mercredi même, 6 avril. Et je pense que ça vaut la peine pour les gens de Québec, si vous êtes prêts et motivés, et les gens de Montréal, si vous avez le temps. C'est à 2h sur la colline parlementaire. Écoutez, on appelle un grand rassemblement pour l'avenir énergétique du Québec, aux énergies renouvelables, non aux énergies redoutables, non aux centrales naturelles, sans cogénération. On parle non, évidemment, au port méthanier et non à l'exploitation gazière et pétrolière dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, une mobilisation intéressante, je pense, qui est tout à fait d'à propos, puisque la commission parlementaire sur l'énergie se termine cette semaine et cette coalition dépose son mémoire ce mercredi aussi. Donc, soyez des leurs et soyez de ceux qui se préoccupent de cet avenir énergétique-là.
Ça, c'est vrai. Merci beaucoup pour cette revue de l'actualité, revue de presse. Au retour, on se fait des petites brèves parce que le temps passe vite. Il y a tellement de choses à dire. Retour à Delirium environnemental et c'est déjà la fin de la revue de l'actualité, revue de presse, ce qui veut dire qu'on est rendu à cette petite partie où est-ce qu'on se dépêche, on vous fait les brèves cette semaine, messieurs.
Eh bien, mesdames et messieurs, pour ceux qui se préoccupent de l'approvisionnement en eau pour les pays pauvres, je vous lance un appel. Allez visiter le www.aquaplastique.org. C'est une compagnie qui produit de l'eau, qui produit du plastique, mais qui aussi s'est associée à l'ONG WaterAid, qui, à chaque clic sur leur site Internet, vont envoyer 10 sous à cette ONG-là pour donner de l'eau aux Africains. C'est pour le Zimbabwe cette fois-ci, mais c'est un projet qui devrait durer. Et donc, 10 cents à chaque clic, évidemment, extrêmement intéressant. On est déjà rendu à 340 000 clics.
Et où est-ce qu'on va cliquer?
Ben, cliquez au www.aquaplastique.org. On va mettre ça sur notre site Internet. Mais évidemment, un moyen de pression intéressant qui donne de l'argent aux ONG qui se préoccupent de l'avenir mondial.
À suivre.
Eh bien, vous vous rendez sans doute compte que les solutions technologiques à nos problèmes environnementaux, on les a pas toujours du côté du cœur, mais il y en a une qu'on aime mettre de l'avant et faire la publicité, c'est celle de CO2 Solutions, une petite compagnie Québec qui va devenir sans doute très très grosse, qui en le fond a conçu un dispositif qui permet d'aller castrer les CO2 à la sortie même des cheminées.
Séquestrer,
ça se dit pas castrer les CO2. Ben, en tout cas, c'est cute. Mais bref, donc c'est mettre un embout à une cheminée pour aller séquestrer ce carbone-là. Eh bien, on a déjà essayé sur l'incinérateur de Québec et ça fait un mois qu'on essaie et les objectifs sont atteints. On a réussi à séquestrer 50% des émissions qui passent dans ce bioréacteur-là et à en faire du bicarbonate de soude qui peut rentrer après ça dans les procédés de fabrication de papier, de pâte de verre.
Hey, on est déçus, hein? On aurait peut-être dû, si on avait eu l'argent, on aurait peut-être dû acheter des actions chez CO2 Solutions.
Mais non, on est des étudiants, on n'a pas d'argent.
Que la performance environnementale de l'industrie papetière est en amélioration, en nette amélioration. Saviez-vous ça, messieurs? Le rapport est sorti le 4 avril, c'est seulement sorti sur les fils de presse pour le moment. Donc l'industrie papetière du Québec surpasse de façon générale les normes auxquelles elle est soumise en matière de protection de l'environnement. Au cours des dernières années, elle a su réduire de 57% entre autres l'utilisation de l'eau. Je serais curieuse de savoir c'est quoi ces normes-là, parce que normes, chiffres, toujours un peu dangereux, mais quand même, si c'est vrai, chapeau tout le monde.
Moi, je serais curieuse de savoir c'est qui a signé cet article-là.
Ah ah! Bon. Devine c'est qui? L'industrie papetière.
Et voilà. Une communauté éco-énergétique verra le jour en Ontario. Eh bien oui, une communauté de 300 maisons sera certifiée Energy Star. Vous connaissez ce logo qui certifie l'éco-efficience de certains appareils ménagers. Eh bien, c'est des maisons entières qui vont être certifiées Energy Star. Et on parle d'une efficacité de 30 à 40% supérieure à celle construite selon les normes minimales. En fait, on crée un précédent sur la normalisation de l'efficacité énergétique des maisons. On va suivre ce dossier-là pour vous.
Et pendant ce temps, il ne reste plus que 65 couples d'aigles royaux au Québec, le saviez-vous? Nous, on a peur de la consanguinité.
Eh bien, du côté de la Belgique, vous savez, on se plaint que le gouvernement canadien brette dans le manche en ce qui concerne l'idée d'inciter les gens à acheter des voitures un peu plus économiques. Eh bien, la Belgique accorde depuis janvier 2005 une réduction d'impôts pour l'achat de véhicules propres. Donc, ceux qui consomment faiblement de l'essence au kilométrage, eh bien, peuvent voir une réduction jusqu'à 15% de leur prix grâce à cette mesure incitative-là.
Grosse nouvelle, une petite dernière rapidos, prestitos,
bien,
ça se voit si vite, hein?
Le téléphéton de l'iceberg B15A, eh bien, il est de retour et il bouge. Vous savez, ce gros iceberg géant qui bloquait la banquise en Antarctique et bloquait le contact pour des dizaines de milliers de pingouins qui ne pouvaient plus aller se nourrir dans l'océan, eh bien, c'est fait, il recommence à bouger à quelques kilomètres par jour.
Eh bien, moi, j'attire tout de suite votre attention à la Cinémathèque québécoise. Il y a l'agriculture autrement, une série de films documentaires sur les façons traditionnelles de faire l'agriculture, donc sans pesticides et sans produits chimiques. Je vous recommande d'aller voir sur le site de la Cinémathèque, ça me semble passionnant. C'est ce qui va conclure la revue de presse, revue de l'actualité pour cette semaine. Nicolas Mainville, Nicolas Milo, merci beaucoup d'avoir partagé votre regard sur l'environnement. Comme d'habitude, c'était passionnant. On sait que dans le domaine médiatique, malheureusement, les sources d'information ne pleuvent toujours pas. Par contre, de plus en plus, le décor télévisuel se joint à la partie du décor radiophonique, excusez-moi, ça sonnait peut-être drôle, mais c'est de bon cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, on reçoit Mme Chantal Lavoie de 100% écolo. Il faut me répéter le poste auquel ça passe, parce que malheureusement, je n'ai pas le luxe de me payer le câble.
Eh bien, c'est au Canal Vox, donc tous les mercredis 19h30, jeudi 20h30, samedi 18h et le dimanche 16h.
Donc, aucune raison de manquer de cette émission-là.
Aucune raison, en effet.
Cette semaine, un sujet absolument passionnant, d'après moi. Vous parlez d'environnement, bien sûr, mais joint avec l'art.
C'est ça notre sujet de la semaine, l'art et l'environnement. Alors, on va voir comment certains artistes qui ont une conscience environnementale l'intègrent aussi dans leur démarche artistique. Alors, que ce soit dans le domaine du théâtre, des arts visuels, décors et accessoires de films même. Alors, comme reportage, on reçoit Éric Saint-Pierre. Dans le reportage du début, on reçoit Éric Saint-Pierre qui signe les photos notamment du dernier livre de Laure Varidel. Également, Hugo Latulippe, documentariste qui a signé le film Bacon. On reçoit Florent Veilleux qui est un artiste interdisciplinaire, artiste patenteux. On peut voir même un arbre géant qu'il a créé à la Tohu avec des objets récupérés. Également, il y a Renaud qui œuvre dans le domaine de la publicité, mais qui scrute les ruelles de Montréal et va dénicher dans les poubelles des objets qui vont lui servir à concevoir là, des tableaux tout à fait originaux. Il y a le théâtre L'Univers également qui crée bien sûr des œuvres théâtrales destinées aux jeunes et moins jeunes, mais à partir de thématiques environnementales.
Donc, tout un tour d'horizon
également. Et puis, il y a les trouvailles de Cécile où on parle de bijoux aussi équitables. Alors, on va être paré de bijoux nous-mêmes. Et puis, je pense également à la table ronde avec, on reçoit l'action terroriste socialement acceptable. Alors, donc,
moi, je vous recommande d'écouter particulièrement pour Annie Roy, qui est une femme exceptionnelle.
Fait,
moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre et la première fois que je l'ai vue de visu, comme j'ai été surprise que cette femme-là arrive à faire bouger les choses à ce point-là. On sait que c'est elle, entre autres, qui a fait les arbres de plastique pendant Noël, donc des arbres avec plein de sacs de plastique, des camps de réfugiés pour faire prendre conscience de la vie des itinérants à Montréal et ailleurs. Donc, et les actions socialement responsables, en fait, l'ATSA, qui est l'action terroriste socialement acceptable.
Exactement. Et alors, on se sert de l'art comme moyen d'action, comme moyen de sensibiliser, puis on utilise des images très fortes aussi.
Donc, cette semaine, c'est le thème environnement et art. Vous recevrez, entre autres, Annie Roy, mais plein d'autres invités, donc à 100% écolo sur les ondes de
Canal Vox.
Merci beaucoup, Chantal.